La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le 24 septembre 2025. Aujourd'hui, une interrogation. Comment en est-on arrivé là ce matin? Une nouvelle qui glace. Dans un collège du Bas-Rhin, une enseignante de 66 ans a été poignardée par un élève de 14 ans. Blessé au visage, l'élève a pris la fuite avant de tenter de se donner la mort. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Alors la question est simple, comment en est-on arrivé là? Car ce n'est plus un cas isolé. Combien d'agressions de ce type avons-nous recensé cette année? Nous savons que l'école n'est plus un sanctuaire, elle est exposée et aujourd'hui encore, elle est blessée. Dans ce cas précis, des signaux existaient. L'élève avait un parcours personnel chaotique, suivi par l'aide sociale à l'enfance, en situation de handicap selon la ministre. Et d'après plusieurs sources de presse, il y avait aussi des signes inquiétants. Et là, je ne peux m'empêcher d'avoir un pincement. Parce qu'à 14 ans, mes amis et moi, nos journées et nos interrogations, c'était qui aura la meilleure note en maths? Est-ce que j'aurai mon brevet? L'UNSS, le mercredi après-midi, la flûte, est-ce que c'est obligé? À 14 ans, notre seule arme, c'était nos rires, nos stylos plumes, en musique, nos flûtes. Aujourd'hui, un adolescent de 14 ans entre en cours avec un couteau. Quel chemin avons-nous pris pour en arriver là? Alors où est le problème? Il est dans une prise en charge psychologique trop faible, trop tardive? Il est dans l'autorité des enseignants fragilisés? Il est dans la sécurité scolaire trop symbolique? Il est plus largement dans notre société qui laisse certains jeunes se perdre jusqu'à la violence extrême. À chaque drame, on réagit après coup, cellule psychologique, renfort de sécurité. Mais la question, c'est que fait-on en amont? Justement, ce soir, nous recevons le collectif École pour tous. Leur combat, c'est l'inclusion, l'accompagnement, la prévention dès le plus jeune âge. Parce qu'un élève en souffrance, un élève isolé, c'est aussi un risque pour lui-même et pour les autres. Parce que l'école ne peut pas être seulement un lieu d'apprentissage, elle doit être aussi un lieu de repère, de protection, de reconstruction. Le drame de Benfeld doit être un électrochoc, pas un fait divers de plus, pas une simple parenthèse médiatique, un tournant. Peut-être que la réponse se trouve justement dans ce que vont nous dire nos invités, comment bâtir une école où personne n'est laissé de côté, là où les signaux sont pris au sérieux, là où les enseignants sont à nouveau, passeurs et de savoir et non une cible. Au programme de cette matinale de 19h, Hélène à l'interview en présence de nos invités, Abdoulaye Ba qui nous parlera du parcours MNA et Slavi Miroslavov avec qui nous aborderons aussi le sujet des enfants vivant en bidonville, en squat, aire d'accueil, tous deux membres du collectif École pour tous. Le tour de l'actualité, le flash info, ce sera avec Fabrice, la chronique actu également, et il va nous parler du dernier album de Lola Yang. En zoom, nous parlerons festival et pas n'importe lequel, celui du quartier historique de Paris, le festival de Montmartre. Et enfin, pour finir, et pas possible autrement, ce sera Gauthier avec sa chronique humoristique. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Tout de suite, l'interview avec vous Hélène et nos invités. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Francesca. Ce sont près de 12 millions d'élèves qui s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école, des collègues, des collèges, des lycées lundi prochain. Aujourd'hui plus que jamais, la mission de l'école est essentielle car elle est le creuset où se forge l'avenir de la nation. L'école doit remplir sa première mission, construire des citoyens instruits, éclairés, capables de faire preuve de discernement, conscients des enjeux de leur époque, apprendre à débattre sans s'invectiver, vivre ensemble sans se diviser, respecter les valeurs de la République sans jamais les relativiser. Investir dans l'éducation, c'est désarmer la violence. C'est à l'école, aux côtés des parents et avec eux, que s'apprend le respect mutuel. Ces mots, c'était ceux de la ministre de l'Éducation nationale lors d'une conférence de presse le 27 août. Alors on a du mal à être en désaccord avec ce programme, sauf que certains enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Ils sont combien d'ailleurs, Abdoulaye Slavi? Vous êtes porte-parole de l'association École pour tous. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'enfants justement qui n'ont pas accès à l'école en France aujourd'hui?
Bonsoir. Nous on recense près de 100 000 enfants qui ne partent pas à l'école aujourd'hui en France.
100 000 enfants.
Oui.
C'est un chiffre qui paraît énorme.
Malheureusement, ce n'est pas que des chiffres, c'est vraiment des enfants qui sont derrière ces chiffres.
D'accord.
Ils existent vraiment.
Alors justement, on va revenir un petit peu sur ces chiffres et sur ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre association École pour tous?
Moi, je laisse la vie.
Bonjour à tous. Alors je vais présenter un peu le collectif École pour tous. Le collectif École pour tous, du coup, ça, c'est notamment, nous défendons les droits des 100 000 enfants qui ne sont pas scolarisés en France. Mais nous avons aussi de diverses origines qui sont dedans aussi, notamment les Roms, les gens du voyage, les Manouches, les Gitans, notamment des mineurs isolés. Et puis, je pense que j'ai fait le tour.
Parce voilà. Que si j'ai bien compris, votre association a pour particularité que ce sont des personnes qui ont eux-mêmes vécu ce parcours d'exclusion d'école qui ont fondé l'association.
C'est ça. En fait, la particularité que nous, on a dans le collectif, c'est que nous sommes les premiers concernés. Du coup, notamment, moi, je pense que quand on fait des trucs dans des ateliers, dans les écoles, etc., notamment, c'est plus intrusif quand c'est quelqu'un de premier concerné qui parle que quelqu'un qui n'a pas forcément vécu la même chose, quoi. Voilà.
Bah justement, c'est ça, c'est le collectif École pour tous, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un collectif, une association des premiers concernés, notamment qui ont vécu ces problèmes, notamment les mineurs isolés qui passent ces parcours-là pour arriver en France, et aussi ils se confrontent à un autre parcours qui est par exemple, je peux donner un exemple sur moi. Moi, quand je suis arrivé en France, mon objectif, c'était juste aller à l'école. Mais quand j'arrive et tout de suite, on me ferme la porte de l'école et on me dit il faut passer des démarches administratives outre que juste un enfant qui veut aller à l'école. Donc, c'est quelque chose qui bouleverse. Et évidemment, c'est notamment pour ça que moi, je me suis engagé à École pour tous, qui est une association donc, qui est juste des jeunes qui sont concernés par ce problème, qui ont vécu ce problème et qui sont en train de le vivre, évidemment, qui sont réunis et ils ont décidé de prendre le destin en main.
On vous a dit donc de faire des démarches administratives. Et c'est quoi, quelles sont les démarches administratives qu'il faut faire
Un premier temps, on vous demande de faire des procédures administratives pour être reconnu en tant que mineur en France.
D'accord, et ça passe par quoi?
Ça passe par plusieurs étapes, notamment il faut aller se présenter devant...
À la préfecture aussi?
Pas encore à la préfecture, mais c'est à l'aide sociale à l'enfance. Mm-hmm. Ils ont des bureaux, ils ont ouvert des bureaux en collaboration avec certaines associations qui permettent de faire cette évaluation. Mm-hmm. Évidemment, tout ça, c'est un peu quand même mis en place pour freiner et retarder cette intégration-là. En plus de ça, c'est que vu qu'on arrive en tant que mineur, par exemple, notamment dans notre demande, dans les demandes, on demande des mises en place de la présomption minorité, au moins éducative, parce que, en fait, pendant ces périodes de démarches administratives là, on n'a rien. Ces enfants, ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont pas droit à aller à l'école. Si on n'a pas droit à aller à l'école, déjà, ça, c'est le minimum qu'on peut obtenir. Ça, on ne l'a pas. Donc, tous les restes, on n'en a pas non plus. Donc, on n'a pas de logement, on n'est pas nourri, on n'est pas logé, on n'est pas nourri. Rien n'est assuré pour ces enfants-là pendant ces périodes-là. Donc ça, c'est pas des cas isolés, parce qu'aujourd'hui, certains de nos membres des collectifs École pour tous, d'ailleurs, qui sont par exemple à Rouen, ils vivent la même chose. Ils ont réussi à faire... ils ont réussi à faire et à passer leur test d'orientation, sauf qu'ils n'ont pas de place à l'école parce qu'on les demande des titres légaux. Ils n'ont pas de titres légaux. Sauf qu'à l'aide sociale à l'enfance, on dit qu'ils ne sont pas mineurs. Vous voyez un peu la contradiction.
Oui, c'est un embrouillamini qui fait que chaque fois qu'un problème est réglé, il y en a un autre et qu'en fait, c'est un casse-tête. Quoi.
Donc, il y a l'aide sociale qui les dit qu'ils sont majeurs et l'école leur demande un titre légal.
D'autant
donc,
que j'imagine que pour les mineurs non accompagnés ou mineurs isolés, j'imagine que l'enjeu est en plus une question de temps, puisque les adolescents arrivent peut-être 14, 15, 16 ans, que si on prend du temps à faire la procédure, on arrive au moment où c'est plus l'âge de l'école et donc ils perdent complètement la possibilité d'y aller, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement. Il y a des procédures qui durent entre 1 et 2, 3 ans. Donc, imaginons que vous arrivez à 15 ans, Et vous commencez vos procédures, ça finit au bout de 2 ans, vous avez 17 ans, vous arrivez à l'école et déjà trop tard parce qu'on vous dit ce n'est plus, maintenant ce n'est plus obligatoire, c'est quand vous voulez et même si vous voulez, il faut se battre après pour l'obtenir. Et
mais surtout qu'il ne faut pas oublier que tout ce temps-là, ces enfants, ils sont soit à la rue, soit même peut-être dans un hôtel social, mais en fait même dans un hôtel social, en sachant qu'ils sont mineurs, des fois c'est compliqué.
Slavi, je me tourne vers vous. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas le parcours d'un mineur non accompagné, mais vous avez pourtant eu des difficultés, vous aussi, dans la scolarité. Oui. Et je trouve ça intéressant que votre association mélange donc des types de parcours différents. Est-ce que vous pouvez dire les autres difficultés quand on n'est pas mineur non accompagné qui peuvent faire qu'on ne va pas à l'école?
Notamment, par exemple, moi, je suis bulgare d'origine rome. Dès que je suis arrivé en France, mon but, c'était notamment d'aller à l'école, mais c'était compliqué. Du coup, les démarches administratives, c'était notamment, par exemple, moi, avec ma famille, on allait s'inscrire à l'école. Mes parents allaient m'inscrire à l'école. Et le truc, c'est qu'on arrive à la mairie, l'agent de guichet, il me disait « Ah oui, ok, c'est encore des Roms qui veulent s'inscrire à l'école. » Du coup, on demandait à monter, voir les gens dans les bureaux, notamment pour les demandes d'inscription à l'école. Et le seul truc, quand on donnait les papiers, etc., l'agent en question qui fait l'inscription des démarches à l'école nous demandait une attestation d'hébergement. Enfin, une attestation de logement. Mais quand tu vis dehors, c'est un peu compliqué de pouvoir donner cette attestation-là. Enfin, même après ça, en fait, les problèmes ne sont pas finis parce que, du coup, on vit toujours dans un bidonville. On est amené à être expulsé, notamment quand on expulse des enfants qui sont scolarisés. C'est-à-dire que, en fait, notamment, ça leur fait
des ruptures
scolaires, et dont notamment. Des retards scolaires. Donc moi, par exemple, j'ai vécu une dizaine d'expulsions. Du coup, dans les dizaines d'expulsions, c'était entre 6 à 9 mois de non-scolarisation. Du coup, de 6 à 9 mois, j'apprenais rien. Et quand j'arrivais à l'école, ce que eux, ils avaient appris en 6-9 mois, moi, j'étais encore au début, quoi.
Ce que vous décrivez tous les deux, là, c'est quand même une certaine mauvaise volonté, on peut le dire, d'une partie de l'administration pour vous inscrire, en tout cas qui ne mettent pas de facilité particulière. Mais est-ce qu'à l'inverse, pardon, je vous laisse parler juste une question et vous parlerez autant que vous voudrez. Moi, j'ai juste une question, c'est est-ce que du côté de l'institution scolaire, vous avez, à l'inverse, rencontré des personnes qui essayaient de faciliter votre intégration scolaire ou vos inscriptions ou qui essayaient, au contraire, de faire ce qu'ils pouvaient pour trouver des solutions?
Moi, par exemple, notamment, on était parti plusieurs fois avec des associations, dont une association qui m'a aidé, des médiateurs scolaires, du coup, qui nous a aidé à nous inscrire à l'école. Mais c'était compliqué parce que même eux, on leur demandait ces papiers-là et qu'ils n'avaient pas, et notamment, on ne pouvait pas les avoir parce qu'on vivait dehors. Mais c'était la directrice de l'école qui m'a fait une attestation sur l'honneur. Donc j'ai pu m'inscrire à l'école et puis continuer, mais comme je vous ai dit, les expulsions n'étaient pas finies. Et donc, notamment, par exemple, avec le collectif École pour tous, ce qui est bien, c'est qu'on a créé aussi une demande qui s'appelle la trêve scolaire. La trêve scolaire, c'est de ne pas expulser les enfants durant l'année scolaire, et pour qu'ils puissent continuer leur scolarité correctement, quoi.
Et vous, Abdoulaye, vous avez aussi réussi à vous inscrire grâce à l'aide, je sais pas, d'une directrice, d'un enseignant, d'un bénévole, vous avez réussi finalement à trouver une place dans le système scolaire?
Oui, au bout d'un an de va-et-vient, j'ai réussi à m'inscrire, c'est grâce évidemment aux associations, enfin à une association, et grâce à une famille qui m'a adopté, pas officiellement, mais qui m'a hébergé ses ailes et qui m'a permis d'aller à l'école et évidemment dans laquelle j'ai resté pendant 4 ans.
Est-ce que je ne sais pas quelle est votre langue maternelle, mais est-ce que la langue rajoute un obstacle supplémentaire par rapport au problème administratif de remplir des documents, est-ce que ça peut être un obstacle pour certaines personnes?
Alors pour nous, oui, parce que notamment, forcément, on ne connaît pas l'administration française. Du coup, qu'on nous demande de remplir des tonnes de paperasse pour aller à l'école, et même pour plusieurs démarches, des fois c'est compliqué. Moi, encore aujourd'hui, quand je dois faire, par exemple, ma demande de naturalisation, c'est tellement compliqué que, en fait, même aujourd'hui, en parlant français correctement, en ayant appris quand même beaucoup de choses de l'administration française, c'est impossible. Oui, c'est compliqué. J'imagine pas encore les enfants qui essayent encore de s'inscrire à l'école et que c'est encore plus compliqué pour leur famille de pas pouvoir être scolarisé, quoi.
Juste, on va faire une petite pause musicale. Alors, on va écouter Show Me The Body avec le titre Two Blood Pact. Il est 19h16 et vous êtes sur Radio Campus Paris. Alors, nous venons d'écouter Show Me The Body avec le titre Two Blood Pact. Et nous sommes toujours donc avec Hélène pour l'interview.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Oui, Abdoulaye Slavi, vous nous avez un peu raconté vos parcours, les difficultés des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. J'aimerais maintenant entrer plus dans ce que vous faites dans l'association et d'abord commencer à comprendre comment vous-même vous êtes entré dans la lutte, parce que c'est pas évident. On peut, une fois qu'on s'en est sorti, se dire j'ai pas envie de mettre là-dedans. Donc j'aimerais bien que vous disiez chacun, et notamment Abdoulaye, j'ai une question un peu précise. J'ai vu que vous aviez été dans un petit peu chez les éclaireurs unionistes. Un mouvement scoutiste protestant dont on sait que beaucoup, il a souvent joué un rôle important dans l'engagement. Beaucoup de femmes protestantes qui ont été chez les éclaireuses ont été des grandes résistantes. Je me demandais si ce mouvement avait pu jouer un rôle dans votre engagement.
Oui, c'est vrai que j'ai fait partie de ce mouvement-là, mais c'est vrai que c'est un peu après que j'ai commencé à m'engager, donc j'ai vu aussi une opportunité, en tout cas une opportunité de parler, d'opportuniser une autre opportunité de partager, on va dire plutôt ma vision, en tout cas, parce qu'on va dire, c'était participer un peu à l'éducation de la jeunesse, parce que quelque part, c'est comme vous venez de dire, ces enfants-là, c'est des enfants du futur, on va dire. C'est eux qui, en tout cas, qui vont remplacer. Donc, du coup, j'ai cette opportunité-là de faire partie de ce mouvement qui est vraiment très, très, voilà, très chouette et intéressant, parce que j'ai vécu des expériences plutôt sympa pendant ces deux ans et demi, même presque trois ans. Donc oui, c'était une opportunité de parler à un autre public, on va dire.
D'accord. Et vous, Slavier, comment vous êtes entré dans le combat militant à créer une association ou rejoindre une association? Je ne sais pas si vous étiez à l'origine de cette association, l'École pour tous.
En fait, moi, c'est aussi simple. C'est que depuis déjà très jeune, en fait, je pensais un peu à vouloir essayer de m'engager un peu dans des associations. Mais notamment, en fait, j'ai notre marraine Anina Tchouchou qui nous a contacté, enfin, qui m'a contacté pour me parler un peu du collectif, de c'est quoi les combats, etc. Au début, j'étais pas trop clair sur ça. Du coup, en fait, je suis parti faire une rencontre nationale, fait des rencontres nationales plusieurs fois. Et en fait, je me suis complètement senti intégré. C'est-à-dire que je me suis senti intégré, je me suis senti à ma place, parce que je me suis dit, ces jeunes, ils vivent la même chose que moi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis pas le seul à vivre ça. Du coup, j'ai envie de m'engager dans cette lancée-là et voir après ce qu'on va donner. Et du coup, aujourd'hui, je fais partie d'un des membres qui fait notamment beaucoup d'activités avec le collectif École pour tous.
Vous êtes nombreux d'ailleurs dans l'association?
Une quarantaine.
Les membres complets, on est presque 500.
D'accord.
Dans tout le territoire.
On est pas mal.
Sur tout le territoire.
Parce qu'en fait, le collectif École pour tous.
Métropole. Après, il y a quand même, on va dire, il y a des groupes plus.
Plus dynamique que d'autres.
Voilà,
et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos actions ou ce que vous voulez faire avec École pour tous, très précisément? Alors, vous nous avez dit peut-être aider pour les questions administratives, mais je crois que vous avez d'autres types d'actions.
Oui, en fait, le collectif École pour l'association École pour tous, c'est en fait les actions. C'est vrai que vous avez parlé de aide aux démarches. C'est vraiment, École pour tous, c'est le contraire. En fait, nous, on essaie de plutôt influencer au niveau des lois. Parce qu'en fait, nous, on n'accompagne pas de manière individuelle. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que des lois soient appliquées sur tous les territoires pour que tous les enfants en bénéficient. Parce que nous, on a vu que c'était plus efficace et ça allait aider beaucoup plus de gens que d'aller un cas par cas, parce que sinon, il y en a qui seront oubliés dans le combat. Donc, les actions que nous menons, évidemment, c'est les plaidoyers, ça, c'est l'un de nos piliers d'actions que nous faisons. Donc, on fait aussi des lancements d'alerte, notamment, c'est quand nous partageons sur les réseaux les problèmes qui existent et les solutions aussi que nous proposons, parce que nous ne venons pas juste avec il y a des problèmes. En identifiant les problèmes, nous proposons aussi en même temps les solutions qu'il faut adapter pour régler ces problèmes-là. Donc aussi, il y a les rencontres nationales que nous faisons en groupe pour réfléchir sur ces activités que nous menons. Donc, je vais laisser nous parler des demandes du collectif.
Mais surtout qu'en fait, il faut savoir aussi un truc, c'est que notamment, les gens, ils proposent des trucs. C'est souvent payant, alors que nous, on propose des trucs concrets, nous sommes les premiers concernés, et en fait, on ne demande pas d'argent, on demande juste à être reconnus en tant que, du coup, les premiers concernés, et qu'après, nos activités soient en fait appliquées correctement, et en plus, quand je suis en train de vous parler de ça, je pense notamment, par exemple, sur une demande où on demande, du coup, l'instauration obligatoire d'une formation contre l'harcèlement scolaire pour les profs et notamment pour les élèves, qui fait partie de l'un de nos premières demandes, qui est très important, parce que il faut savoir que aussi dans les écoles, il y a beaucoup d'harcèlement, il y a beaucoup de moi par exemple, typiquement moi en premier, quand j'étais petit, j'ai vécu l'harcèlement assez violent, où je me faisais insulter, je me faisais traiter de rats, femmes, de personnes qui sont, enfin, que j'avais pas mon mot à dire parce que j'étais pas chez moi, que, alors qu'en vrai j'avais tout à fait le droit d'être là, même quand je dis par exemple quand je partais m'inscrire à l'école, l'agent de guichet m'a dit un corps des Roms, bah typiquement on a, en plus le pire dans tout ça c'est qu'il nous a dit on a aucun droit sur cette commune. Enfin, vous imaginez,
c'est énorme. Oui, donc vous voulez dire que c'est assez large, quoi. C'est à la fois se battre politiquement, se battre contre le harcèlement, se battre pour le droit automatique.
C'est ça.
Oui, justement, alors, parce que j'imagine que le parcours, enfin, vous êtes là pour représenter aussi comme quoi c'est possible. Le parcours bah, est un petit peu bah, sinueux, il y a quand même découragement. Là, vous parlez de l'exclusion carrément, parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il y a eu des propos d'une certaine députée, donc RN, voilà, vous allez peut-être en parler, et qui a fait une corrélation tout de suite directe avec le fait que ce soit uniquement des immigrés, sans papiers, etc. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu?
En vrai, on ne veut pas aller trop loin sur ça, parce que nous, là, École pour tous, on se concentre plutôt sur le côté éducation, mais justement, aujourd'hui, on a tendance à entendre partout que tous les problèmes de la France, c'est les immigrés. Donc, c'est sur des sujets où j'aimerais pas trop aller, parce que c'est c'est des sujets où je prête pas beaucoup attention, notamment parce que on est des enfants qui veulent juste aller à l'école. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous parliez tout à l'heure on n'identifie pas qu'il y ait des problèmes. Et puis, avec le collectif, depuis sa création, évidemment, on a réussi à avoir des avancées, bien évidemment. Notamment, déjà de faire connaître ces 100 000 enfants-là, parce que moi, je sais qu'avant, d'ailleurs, même aujourd'hui, c'est un peu flou, mais quand on demande les chiffres sur les mineurs non accompagnés qui n'ont pas été pris en charge, il n'y en a pas, parce que ces enfants-là sont oubliés, personne n'en parle. Donc, on a réussi à faire connaître le problème de ces 100 000 enfants, notamment, qui sont privés de l'école. Donc, ça, c'est déjà, c'est une avancée, c'est une avancée majeure. Oui. Et aussi, notamment, on a réussi aussi à gagner des victoires. Notamment, en 2020, on avait réussi à avoir une loi sur la loi qui s'appelle École de la confiance, l'article 16 de loi École de la confiance, qui simplifie les documents d'inscription, par exemple, à l'école. Donc, qui a permis à des milliers de jeunes et des enfants de pouvoir s'inscrire à l'école, notamment aussi qui vit dans les bidonvilles, hôtels sociaux et des trucs comme ça. Et aussi, j'aimerais quand même un peu préciser sur les demandes que nous portons aujourd'hui. Donc, Slavi parlait tout à l'heure de l'instauration d'une journée de formation obligatoire à l'école, notamment pour les personnels professionnels éducatifs et les élèves. Donc, ce n'est pas juste une journée pour causer les cas, c'est une journée qui pour écouter les premiers concernés qui ont vécu ces problématiques-là, les écouter et suivre les propositions qu'ils proposent. Et il y en a une deuxième qui est l'instauration de la présomption minoritaire dont je parlais tout à l'heure. Donc pendant
l'interdiction des tests osseux.
Et aussi, j'y arrive, donc la présomption de minorité, donc, qui est importante pendant le parcours de prise en charge. Évidemment, ces jeunes-là, tant qu'il faut, les laisser, c'est des enfants, tant que vous n'avez pas prouvé le contraire. Donc c'est bien de les laisser avoir leurs droits. Aller à l'école, ce n'est pas un privilège, ça doit être un droit.
Mais vous êtes écouté justement quand vous parlez aux autorités, au rectorat, j'en sais rien, aux associations, aux professeurs, aux responsables de lieux d'enseignement?
En tout cas, ça dépend sur quel domaine. Nous, notamment, moi, par exemple, quand je parle quand on va faire des ateliers de lutte contre la cime dans les écoles, oui, on est écouté parce que nous sommes les premiers concernés, et on veut à qu'on soit écouté parce que, en fait, c'est important, et en fait, on leur explique qu'en fait, il faut sensibiliser les élèves sur ça, parce qu'en fait, si déjà ils sont pas sensibilisés, ils sont pas au courant des problèmes qu'ils peuvent avoir, et qu'il y a notamment des enfants qui sont capables de pas en parler, et là c'est le moment d'en parler, de trouver une solution, quoi.
J'en profite pour demander vous occupez plutôt du niveau scolaire, collège, lycée, c'est ça, ou vous intéressez aussi aux étudiants?
Alors
Bah, nous, c'est les enfants et jeunes. En fait, nous, parce que l'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse aller à l'école, y rester et s'y sentir bien. Donc, c'est
donc
vraiment...
un étudiant peut aussi contacter votre collectif
Ou c'est que les mineurs parce que
Non, c'est non tout le monde. En fait, okay. Nous, aujourd'hui, ce que nous demandons, enfin, en tout cas, ce que nous demandons, honnêtement, je pense qu'il y a des étudiants qui nous écoutent, c'est partager, évidemment, les données, enfin, en tout cas, partager nos publications, nous suivre sur nos réseaux et aussi s'ils connaissent des personnes qui ont vécu ces mêmes problématiques, parce que l'objectif c'est vraiment les personnes qui ont vécu, qui sont concernées par ces problèmes-là. Il n'y a pas de jeunes, c'est vraiment c'est des jeunes et enfants. Donc tout le monde est bienvenu, ils peuvent nous contacter. En
fait, exactement, ils vous contactent comment techniquement, très concrètement?
Nous contacter sur notre compte Instagram et collectif. École pour tous.
Donc Instagram, collectif École pour tous.
Et on a Facebook, École pour tous, tout court.
Voilà, donc il faut se rappeler École pour tous, allez sur les réseaux sociaux, vous trouverez les contacts.
Voilà, vous tapez, bien, en fait, tout simplement, s'il vous plaît, pour prendre la tête, vous tapez École pour tous sur Google, et vous allez trouver...
vous allez voir un logo comme ça, comme ça.
Donc Abdoulaye nous montre son logo École pour tous sur son t-shirt.
Voilà. Voilà, juste pour tout compléter. Je disais, comme disait mon camarade Abdoulaye, n'hésitez pas à partager, relayer et essayer de nous donner plus de visibilité pour que les jeunes qui sont notamment concernés par ces demandes-là puissent nous contacter et même les étudiants qui ne vivent pas notamment ces discriminations et autres, ils peuvent aussi nous contacter pour des questions notamment de scolarité, etc. Je sais qu'il y a notamment des étudiants qui font des mémoires, etc. sur ces sujets-là. Donc vous n'hésitez pas.
D'accord. Merci beaucoup. Merci Abdoulaye. Merci Slavi d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Hélène. Tout de suite le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
L'actualité et c'est avec vous Fabrice, bonsoir.
Bonsoir Francesca, le Jimmy Kimmel Live de retour sur ABC, je vous en parle à la fin de ce Flash Info. À la une de ce mercredi 24 septembre, la volte-face du président états-unien face à son homologue ukrainien. Donald Trump a affirmé hier sur son réseau social Truth Social, je cite, j'ai pleinement compris la situation militaire et économique de l'Ukraine et de la Russie et après avoir vu les problèmes économiques qu'elle cause à la Russie, je pense que l'Ukraine avec le soutien de l'Union européenne, est en mesure de se battre et de reconquérir. Le chef des États-Unis soutient ainsi l'Ukraine après le clash du 28 février entre Zelensky et Trump dans le bureau ovale et après avoir reçu le 15 août en Alaska Vladimir Poutine pour un échange bilatéral sans la présence de l'Ukraine. Au Moyen-Orient, dans la bande de Gaza, 40 personnes ont été tuées selon la défense civile du territoire palestinien dirigé par le Hamas ce mercredi. Elles ont été tuées par des frappes israéliennes. L'État hébreu affirme à l'AFP avoir, je cite, frappé deux terroristes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Dans le reste de l'actualité en France, dans le Grand Est, dans le Bas-Rhin, à Benfeld, au sud de Strasbourg, le lycée Robert Schumann. Une enseignante de 66 ans a été blessée au couteau. Elle est hospitalisée à l'heure actuelle en urgence absolue. La personne soupçonnée est un adolescent de 14 ans qui a ensuite utilisé son arme contre lui. Deux enquêtes ont été ouvertes. À Matignon, Sébastien Lecornu a reçu les représentants du patronat ce mercredi après que le Premier ministre ait reçu les syndicats de travailleurs plus tôt dans la semaine. Le patronat dit maintenir la pression, notamment avec l'organisation d'un rassemblement le lundi 13 octobre prochain. Le patron des patrons dit, je cite, « Je suis très inquiet qu'on ne parle plus de croissance, plus de compétitivité ». Fin de citation. Et puis, lui est de retour sur la chaîne ABC.
Merci beaucoup.
Jimmy Kimmel coming back to late night television.
ABC chose to bring back their low rating nighttime host.
We are in for a monologue that will be a marker in late night show history.
It's going to be a moment.
Yeah, no question. A huge moment in American history.
It's one of the most pivotal moments in broadcast history.
He will be delivering what is being dubbed the most anticipated monologue in late night in years.
Après une semaine de suspension de son émission, l'humoriste est de retour, Jimmy Kimmel. Son émission a été suspendue après, donc il a accusé le camp républicain d'instrumentaliser le meurtre de Charlie Kirk par un homme de 22 ans qui semblait plutôt à gauche. L'humoriste a affirmé, je cite, que les partisans s'efforcent désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme tout sauf un des leurs. Son émission n'est pas totalement revenue sur le petit écran aux États-Unis car elle est diffusée sur des chaînes locales et certaines ont fait le choix de ne pas la diffuser, Francesca.
Merci beaucoup Fabrice, on vous retrouve tout à l'heure pour la chronique et tout de suite une petite pause musicale. On écoute Bad Nervous avec le titre Baby Drummer. Il est 19h35 et vous êtes sur Radio Campus Paris. Nous venons donc d'écouter Bad Nervous avec le titre Baby Drummer. Et tout de suite, c'est la chronique de Fabrice.
La matinale de 19h.
Donc c'est un nouvel album, l'artiste est Lola Yang. Dites-nous en plus, cher Fabrice.
Exactement, je vous parle d'elle. Succès mondial avec ce titre Messi issu de son premier album This Wasn't Meant For You Anyway. Lola Yang est une jeune artiste britannique de 24 ans qui s'exprime à travers ses titres quelque part et se met à nu comme elle le dit très bien avec son titre Messi que l'on vient d'entendre. Avec son nouvel album I'm Only Fucking Myself, elle annonce la couleur. 14 titres publiés vendredi dernier dans lesquels elle dit qui elle est encore plus et avec des notes positives. Et justement, j'ai envie de vous proposer d'écouter plusieurs titres qui vont nous apporter de belles vibes. D'abord, elle nous dit qu'elle ne veut qu'une chose dans ce son.
Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside.
side. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna fuck you rough. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe.
One Thing, le troisième titre de cet album qui est sorti cet été, au début de l'été. Donc un titre où elle parle d'un mec, de ce qu'elle veut avec ce mec, de manière crue et de manière directe, franche, bref, elle n'a pas le temps. Elle se demande dans un autre titre s'il est possible d'ignorer ça. Le dixième titre de l'album, Can We Ignore It, là sur des sons pop qui varient un peu avec des sons rock, pardon, qui varient un peu avec des sons pop que vous avez pu entendre par exemple dans Messi ou dans One Thing. Elle aussi, elle est dans la vibe, dans la continuité un peu du pop, du punk anglais. Elle dit aussi ce qu'elle ne souhaite plus être dans ce titre. Vous l'avez compris, Lola Young, elle n'a pas le temps. Dès le début, elle annonce dans ce titre-là, Not Like That Anymore, qu'elle a été addict, notamment à pas mal de substances, et qu'elle est en cure de désintoxication en ce moment. Douzième titre de l'album, Not Like That Anymore, de l'album I'm Only Fucking Myself, paru vendredi dernier. C'est disponible, et c'est disponible un peu partout, et je vous le conseille fortement, Francesca.
Merci beaucoup Fabrice en tout cas. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Le Zoom, nous allons parler festival avec Lucie Baudy. Bonsoir Lucie, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends très bien. Bonsoir.
Bonsoir Lucie, vous êtes directrice artistique et programmation du Festival Montmartre. Donc le festival dans le quartier historique de Paris qui débutera donc demain le 25 septembre jusqu'au 28. Et je voulais savoir, donc déjà comment allez-vous ?
Très bien, merci beaucoup.
À la veille de ce début, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'esprit du Festival Montmartre, justement celui de 2025?
Absolument. Alors Montmartre Festival, donc on l'a créé il y a 3 ans et c'est le principe, c'est un parcours artistique dans le quartier, donc avec différentes étapes, des expositions, des concerts, des performances. Voilà, l'objectif c'est de représenter tous les types d'art de manière le plus accessible possible. Donc on a essayé différentes versions, mais cette année c'est vraiment beaucoup en accès libre, en accès gratuit, dans les parcs, dans les rues, quelques moments aussi aux arènes de Montmartre le samedi et la soirée clôture au bar à bulles du Moulin Rouge avec le rooftop avec le moulin pour le dimanche. Donc y a vraiment plein de beaux moments, la programmation est assez dense, mais en fait le principe du parcours c'est que chaque événement se suit. Donc par exemple vous allez au premier événement et puis ensuite vous suivez la foule jusqu'au second, etc. Et puis pour les électrons libres, c'est aussi possible d'aller voir les différents espaces du festival hors de ces horaires vraiment du parcours et puis de pouvoir profiter à son rythme des expositions, des concerts, etc. Aussi.
Donc dans le parcours, vous arrivez, donc vous créez une cohérence, comme vous dites, ça se suit avec toutes les disciplines artistiques. Et cette édition met en avant donc 3 axes, écologie, inclusion sociale et innovation artistique. Comment justement ça va se traduire dans cette, concrètement dans cette programmation?
Alors par rapport, déjà l'écologie elle est présente par rapport aux thématiques qu'on a choisies pour guider les choix artistiques. Donc par exemple, on a fait un grand focus sur les océans avec les abysses, avec Abysses aux Abesses qui se déroulera donc jeudi en partie avec des visites pour les écoles et surtout samedi et dimanche dans le passage des Abesses et sur la place des Abesses. Et ensuite le vendredi, on est plutôt centré sur le mycélium, les sols vivants avec une journée à la Goutte d'Or. Et ça, c'est vraiment la partie écologie. Bon, déjà, simplement à travers la construction de scénographie qu'on a faite, on a fait énormément de récupération de matériel. On a même récupéré parfois des éléments dans les encombrants de Paris. On les a transformés, on les a sublimés. Et ensuite, il y a l'aspect inclusion sociale. C'est vraiment de rendre le festival accessible au maximum en proposant des accès gratuits ou des entrées à très peu cher ou alors avec des avantages ou des entrées offertes pour certaines populations. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'on a vraiment voulu mettre en avant la scène émergente. Donc, par exemple, on a fait un tremplin en partenariat avec Groover pour justement la scène à la Goutte d'Or, qui va être très très beau, plus sur une ambiance hip-hop, rap, soul. Et ensuite, les Abbesses, c'est aussi des groupes émergents, mais un peu, enfin, ça dépend, il y a un petit peu de tout. Il y a des groupes plus confirmés qui partagent des scènes avec des groupes plus émergents. Et l'objectif, c'est vraiment de créer un moment où on peut être tous ensemble et se regrouper autour justement de cette passion pour l'art. Et cette année, vraiment, le thème général, c'est la nature comme œuvre d'art. Donc, c'est montrer que la nature est une œuvre d'art et donc qu'on inviter tout le monde à la respecter comme telle.
Alors, Lucie, parmi les temps forts, on retrouve donc la soirée d'ouverture qui est demain au Lublinaire Art Studio, avec
Absolument.
La présence
qui est complet d'ailleurs,
qui est complet, avec la présence de Christabel, muse de David de Lynch, qui est déjà un événement en soi. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, vu que c'est complet, donc on pourra pas y aller, hein. Comment est née cette collaboration, justement autour de ce week-end?
Alors moi, j'ai toujours été une grande fan de David Lynch et c'est parti. Je suis aussi réalisatrice de base et c'est parti vraiment de mes réalisateurs préférés. Et quand j'ai rencontré Christabel, au Festival de Cannes cette année, on a vraiment beaucoup sympathisé. Elle et David Gatton aussi, qui est un cinéaste expérimental qui l'accompagne et qui a fait les images qui seront projetées pendant The Spirit Lamp. Et donc, une chance inouïe a fait qu'il se retrouvait en Europe au moment du festival. Donc on a pu mettre en place cette soirée immersive sur le thème de la bioluminescence. Donc pareil, pour encore montrer que la nature est une œuvre d'art, on a utilisé cette thématique de la bioluminescence pour il y aura des sortes d'hologrammes, il y aura des projections, il y aura un banquet d'art.
Alors justement voilà. Lucie, je vais en parler, le banquet d'art comestible du chef Théo Aluni.
Donc, c'est ça.
Le chef qui a Hank's Corner à Paris 11. Et pareil, est-ce que vous pouvez un peu nous en dire à quoi est-ce qu'on s'attend et pourquoi lui et comment est née justement cette collaboration aussi?
Alors c'est... Donc, le banquet d'art, c'est quelque chose qu'on a mis en place dès la première édition du festival.
En 2023.
Et chaque année, un peu, c'est ça, en 2023, chaque année, on essaie de le réinventer, de pousser encore un peu plus loin, etc. Et donc, cette année, on a fait cette collaboration avec Théo, qui est un chef gastronomique. Donc, c'est vraiment comme un voyage gustatif avec 5 plats qui vont venir, c'est des petits plats évidemment, c'est gastronomique, mais 5 assiettes qui vont venir faire visiter, et c'est entièrement végétarien, pour la plupart même vegan, et donc on a vraiment voulu mettre à l'honneur aussi une cuisine végétarienne ce soir-là, pour montrer qu'on peut bien manger de manière vraiment très très délicieuse et nourrissante, quand c'est végétarien. Donc ça, c'était aussi cette envie. Et puis le banquet d'art, en dehors de ce qu'on va manger, il y a aussi des choses qui seront vraiment sur la table et qui sont comme des sculptures végétales à partir de légumes, de fruits, etc., qui sont comestibles. Après, je ne sais pas si le public va oser les manger, mais au plus téméraire. Et puis et donc vraiment, on mélange en fait différents aspects naturels à travers ce banquet pour pouvoir montrer vraiment la beauté des matières, des textures, etc., qui sont des thèmes qui m'inspirent beaucoup même dans mon travail de réalisatrice et de photographe.
D'accord. Alors on parle de public, le festival, vous avez dit tout à l'heure, ne se cantonne pas à quelque chose de central. C'est tout un quartier, la Goutte d'Or, aux Abbesses, en passant par Pigalle, Barbès, etc. Alors ma question, c'est comment concevoir la circulation entre ces lieux? Comment ça se passe concrètement?
Alors concrètement, cette année, l'année dernière, on avait réussi à étendre sur 6 jours le festival, avec donc un parcours Pigalle, un parcours aussi qui était était plus du côté des Batignolles, Place de Clichy, un autre parcours. En fait, chaque jour a un parcours. Donc chaque jour, on met en avant un quartier. Et cette année, on a vraiment voulu concentrer les choses pour que ce soit aussi plus facile d'accès pour le public. Parce que c'est vrai, comme il y avait beaucoup de choses l'année dernière, on a voulu vraiment centraliser un peu plus cette année. Donc on a fait simplement le parcours Abbesse et le parcours Goutte d'Or, qui étaient les premiers parcours qu'on avait fait la première année. Et vraiment, pour que ce soit plus immersif, plus dense, et que vraiment on puisse accéder à un maximum d'expérience artistique en marchant moins de 5 minutes. Donc ça, c'est un peu ça. Et donc, on a un plan qui est dans différentes affiches qui sont distribuées dans le quartier, et qui est aussi sur le site web et sur le compte Instagram et Facebook. Donc voilà, c'est un plan qui montre les différentes étapes. Donc cette année, il y a le vendredi, c'est le parcours Goutte d'Or qui va du Square Léon jusqu'à la rue d'Oran avec un village festif rue d'Oran et un cercle de percussion Square Léon. Et il y a aussi une exposition à Univers L'Art en soutien à la Palestine. Et ensuite, il y a des jeunes artistes, artistes d'une association qui s'appelle Boyazer qui proposent, qui sont réfugiés plus ou moins. Et donc, ils proposent une exposition qui va durer même du jeudi au dimanche. Donc, n'hésitez pas à passer à l'écomusée pour aller voir leurs œuvres. C'est vraiment très intéressant leur travail. C'est en accès libre aussi. Et donc ensuite, on va emmener tout le monde dans le village festif rue d'Oran. Et là, c'est là qu'il y a le tremplin Groover avec les concerts, etc. Donc, c'est des parcours qui sont assez resserrés. Et ensuite, pour les Abbesses, c'est vraiment le village festif qui se trouve sur la place avec un marché de créateurs, pêcheurs, un peu sans décoration, mais c'est un marché de créateurs et une scène musicale assez rock et un peu folk. Et puis ensuite, il y a le passage des Abbesses qui est vraiment avec des expositions en extérieur aussi et différentes galeries. Ça sera actif samedi et dimanche. Et après, le dimanche, en plus, il y a les visites guidées des galeries d'art qui se trouvent donc un peu plus loin dans les Abbesses, même rue Le Pic, etc., vers rue Véron. Et donc, il y a toute une série de galeries partenaires qui proposent du coup leurs expositions avec leur curation. Et on a des guides qui permettent de découvrir ces galeries de manière plus facile. Il y a deux visites le dimanche, en plus, celles qui ne sont pas complètes encore. Donc, si ça intéresse certains auditeurs de visiter les galeries.
Génial. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Lucie, pour cet échange. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que le Montmartre Festival se tiendra dès demain, le 25 septembre, jusqu'au 28 septembre, avec un super programme qu'on peut retrouver donc, sur le site montmartrefestival.com. En tout cas, merci d'avoir été avec nous peut-être rendez-vous là-bas.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. À très vite.
Au revoir. Tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale. On va écouter Chéri Chéri qui sera présent au festival avec le titre One Night Stand. Il est 19h52 et vous êtes sur Radio Campus Paris. À tout de suite.
Well, fuck. I wake up with you, I stumble and titter to the cold bathroom. I think back, no memory, too many sips of everyone's whiskey. Cause Miss Merck, I thought you had your work. No, I never said it's over, too afraid to get hurt. Then you're holding my hand, finally more friends. Never mind, I'm just about another one night stand. Regret, oh, higher hopes in my head.
Nous venons donc d'écouter Chéri Chéri avec le titre One Night Stand. Vous êtes sur la matinale et tout de suite, la chronique de Gauthier.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Bonsoir, cette semaine c'est ma 66e chronique sur ces ondes, c'est ma première chronique de cette année et je crois que je peux me permettre de me considérer depuis le temps comme un gros bonnet dans cette radio, tellement gros que je suis à ça de devenir une cagoule et je pense qu'il y a quelques règles, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui vont arriver cette année, donc quelques règles qu'il va falloir établir et cela va sans dire que si les règles ne sont pas respectées, on vous mettra une amende. Je vais d'ailleurs vous détailler les infractions, écoutez bien parce que je ne le répéterai pas une deuxième fois, excepté demain à 13h au moment de la rediffusion de cette émission. Première règle, une participation à la matinale vous sera facturée. En effet, nous avons remarqué que l'année dernière, beaucoup d'émissions avaient été annulées par manque de bénévoles. C'est pourquoi on s'est dit que pour attirer les bénévoles, il fallait les prendre par leur portefeuille. Depuis la rentrée, chaque fois que vous inscrivez votre nom au planning, vous êtes facturé 5 euros. Si vous l'effacez, c'est 5 euros supplémentaires. Et si vous venez, c'est 10 euros le passage. En plus de tous les frais avant. Et bien sûr, 1 euro symbolique pour la rediffusion. Et puis chaque jour, allez, 50 centimes parce que vous figurez dans le podcast. Deuxième règle, si vous venez dans une tenue considérée non correcte, c'est-à-dire sans le pins avec écrit Radio Campus Paris 93.9 FM de 17h30 à 5h30 du matin et 24h sur 24 sur le canal Campus, sur le DAB+, ainsi que sur www.radiocampusparis.org. Et si jamais vous n'avez ni la radio, ni internet, ni un ustensile nous écouter, vous pouvez toujours venir assister en direct aux émissions à l'adresse dans le 10e arrondissement de la ville de Code Postal, dans la région présidée par et Vincent Lagaffe, sa catchphrase c'est... Ouais. Donc si vous n'avez pas ce pins qu'on vous a normalement distribué quand vous vous êtes inscrit, c'est 25 euros d'amende. Et je ne l'ai pas encore bien sûr, vous l'aurez remarqué, c'est parce que je suis acquitté. En effet, cet été, j'ai eu 26 ans, donc j'ai le droit au traitement senior qui me permet de ne payer aucune de ces amendes selon la règle du « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Il y a quoi dans le règlement encore bon, je vous dis les principales. Hein. Par exemple, si vous ne parlez pas dans le micro, 10 euros. Si vous parlez trop dans le micro, 8 euros. Si vous parlez dans le mauvais micro et qu'on vous entend à Radio Campus Tours par mégarde, c'est une mutation disciplinaire qui vous attend et on vous envoie directement dans cette radio. Vous nous donnerez quelques nouvelles du centre Val-de-Loire. Il paraît que c'est une super région, notamment les immeubles du quartier Sanitas. Je sais pas. Si vous prenez une arme à feu et que vous abattez un autre bénévole à bout portant, 52 euros d'amende. Par contre, si on trouve que c'était justifié, vous n'aurez rien à payer. Aussi, si vous ne faites pas choper, on ne vous embêtera pas. Voilà, des trucs, faites des trucs genre cacher les corps, vous y connaissez sûrement mieux que moi. Et aucune police ne sera prévenue dans la limite des stocks disponibles, à la limite peut-être une webdings. Moi, je serai là toutes les semaines au cours de cette année pour récupérer votre argent et je le fournirai directement aux gens du bureau. Et l'argent sera reversé directement pour organiser des soirées, des sorties à Londres pour aller voir des comédies musicales pour un bénévole. Salut !
Merci beaucoup Gauthier. Alors, c'est la fin de cette matinale de 19h. C'était Francesca à l'animation. Merci à nos invités. Merci Hélène à l'interview. Fabrice pour le Flash Info et chronique avec Gauthier et Fabrice également. Delila pour la réalisation. Odéjane à la coordination de cette émission. On revient demain, même heure, même fréquence, mais cette fois-ci à Nord-les-Murs pour un flirt au Jardin 21. D'ici là, rendez-vous sur radiocampusparis.org pour écouter tous nos podcasts. Très bonne soirée sur le 93.9. Et à demain.